plongeons ensemble dans cette magnifique fréquence des reines. Alors, comme je vous le disais dans le texte accompagnant cet audio, juste au-dessus, la reine de Saba possède une dimension d'initiée que nous allons voir plus en profondeur, car elle n'est pas vulgairement n'importe quelle reine, mais elle est elle-même pharaon et donc grande initiée. Initiée de quoi? Parce que souvent on utilise le mot initiée, mais initiée de quoi? Initiée, maîtresse en fait des grands mystères. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans cet audio. Nous parlons ici d'une époque avec la reine de Saba où les pharaons sont encore à la fois des rois d'un côté, mais aussi des prêtres de l'autre. Ils sont dans la vie spirituelle et ils sont des maîtres de la spiritualité. Ils ont pourchassé pendant... Enfin, pas pourchassé, mais ils ont été éduqués dans la voie de la spiritualité, du coup de la noblesse, de la divinité. Nous ne sommes pas du tout encore à la fin de leur règne, des vrais pharaons, à l'époque par exemple des conquêtes romaines ou dans les dynasties d'usurpation par les rois perses, hein, qui n'avaient pas accès à tous ces secrets initiatiques-là. D'ailleurs, nous trouvons aussi des informations dans les textes du judaïsme nous expliquant que la reine de Saba était une sibylle. Le mot sibylle ressort, cela veut dire oracle. Ce qui appuie en fait également son statut de pharaon, donc à la fois reine et initiée ou oracle, hein, comme ici. On trouve cette information en Orient byzantin également, sous les écrits de Georgios Monaco, qui la nomme tour à tour Sibylla, Sambete Sabé, la Sibylle babylonienne ou encore la Sibylle égyptienne. Donc on retrouve un petit peu partout ce terme de Sibylle, chez les Grecs aussi, qui l'appellent Sibylla et Regina Sibylla, donc la reine Sibylle, que l'on retrouve, un terme que l'on retrouve dans l'ouvrage itinéraire de Jérusalem, pour ce qui concerne la littérature occidentale. Donc une reine Sibylle. De mon côté, elle m'est apparue en tant que sœur de la rose, donc initiée cette fois-ci plutôt au mystère du féminin sacré. D'ailleurs, d'autres indices laissent à penser que la reine de Saba était une initiée de la rose. Nous en verrons avec sa légendaire rencontre avec le roi Salomon, mais aussi avec les résultats de fouilles récentes qui montrent que son palais était orienté vers l'étoile de Sirius, l'étoile d'Isis en fait, comme le disait déjà la Bible. Donc Sirius, c'est en fait l'étoile de l'école des grands mystères, et comme je le disais, là, c'est le système solaire, le système d'étoiles à part, qui fait naître la déesse Isis, celle qui a propagé les connaissances des sœurs de la rose après la destruction d'Atlantis, donc une reine Atlante pour moi. Alors, est-ce que la reine de Saba a-t-elle vraiment existé? Eh bien, des fouilles datant de 1952 dans le nord du Yémen ont été révélées, en fait, un temple qui date de 3000 ans, ayant été utilisé jusqu'en plus 550 ans et situé près de la capitale du royaume de Saba, qui avait été identifiée comme ça, capitale située là, selon la Bible, d'après la Bible et la tradition musulmane, ce qui pourrait constituer une preuve, du coup, de l'existence de la reine de Saba. En 2008, c'est le palais de la reine qui semble avoir été découvert en Éthiopie, sous le palais d'un roi chrétien, qui l'aurait alors remplacé. On sait tous que la chrétienté, elle aime bien faire ça quand même, hein, avec nos églises, ses temples. Et du coup, c'est ce palais-là dont je vous disais qu'il était, dont l'architecture prenait comme direction en fait l'étoile Sirius, comme cela était évoqué dans la Bible. Donc très bien. Regardons avec ces nouvelles perspectives que je vous ai données les fameuses légendes qui entourent la reine de Saba et que vous connaissez peut-être déjà. Alors déjà, la reine de Saba est citée dans le Coran dans la sourate 27, dont ce récit diffère fortement avec le récit biblique, si jamais vous en avez un petit peu plus l'habitude. Dans le texte biblique, la visite de la reine à Salomon est de son initiative, alors que dans le Coran, elle vient à l'invitation de Salomon. Donc déjà, deux intentions différentes. De nombreuses autres différences existent également entre ces deux récits, mais à chaque fois, on y retrouve la richesse de la reine qui envoie des tonnes d'or, de pierres précieuses, de matériaux de construction rares. Ce sont des caravanes. En enfilade, des chameaux pliant sous le poids de ses richesses. En fait, la reine de Saba est richissime. Mais richissime de chez richissime. Nous ne pouvons même pas entrevoir avec notre mental toute sa richesse. C'est inaccessible en fait pour nous de nos jours. Dans cette rencontre, on trouve également la légende des jambes de la reine, et que ce soit par une tentative dans un récit ou dans l'autre de piéger la reine, clairement, de lui tendre un piège, ou simplement parce que le marbre noir du palais du roi est tellement réfléchissant que la reine va se méprendre et confondre le sol avec de l'eau. Alors, dans les deux cas, elle va lever sa robe et révéler ses jambes qui sont poilues, Salomon lui disant alors « Ta beauté est celle d'une femme, mais tes poils sont masculins. » Dans certaines versions, les jambes poilues sont des pieds d'âne, voire même un pied d'oie, dans la tradition allemande. En effet, le mot « âne » en français peut se confondre avec « âne » qui désigne une canne et une oie. Et c'est peut-être pour ça que l'on a une dérive vers l'oie. Mais moi, ça a attiré mon attention parce que dans ce cas, si ce n'est pas une dérive, mais que c'est plutôt une dérive dans l'inverse, c'est-à-dire qu'à la base, c'est des pieds d'oie et que ça a dérivé vers le mot « âne », eh bien, cela veut dire que la reine de Saba est une femme oie, c'est-à-dire une femme oiseau qui va se rattacher à un fond de légende populaire occidentale autour des fées cygnes. Ces fées cygnes auxquelles se rattache aussi Guenièvre. Donc c'est pour ça que le lien est particulièrement fort et qu'il éveille du coup mon intérêt à ce moment-là. Parce que ça va rattacher, en fait, ça va confirmer le rattachement avec les prêtresses de la rose. D'autant plus lorsque l'on sait que dans le cercle des prêtresses de la rose, on les appelle aussi les femmes cygnes. D'ailleurs, les sœurs de la rose portaient des masques d'oiseaux au temps de l'Atlantide. Donc tout ça, ça confirme, quand on sait un petit peu les codes, que l'on veut nous dire qu'en fait, effectivement, avec ses pieds d'oie, cela signifie que c'était une sœur de la rose et une prêtresse. Les femmes cygnes se rattachent aussi donc à Guenièvre, notamment aux légendes des chevaliers de la table ronde, tout comme la reine de Saba. Elle apparaît dans ces légendes-là, nous le verrons assez rapidement. Mais retournons donc à la suite de la légende de la rencontre avec le roi Salomon. La reine propose ensuite au roi une succession de devinettes qui sont une façon de tester pour elle le niveau initiatique du roi. Est-il bien celui qu'il prétend être ? Est-il un héritier de cette spiritualité-là auquel elle-même elle appartient ? Dans toutes les versions, la reine est toujours merveilleusement accueillie par le roi, qui donne un banquet en son honneur, en son palais, et à chaque fois la reine y passe la nuit. Cette nuit est parfois décrite. Le roi en tout cas est subjugué par la beauté de la reine, mais elle lui fait promettre de ne rien tenter envers elle. Le roi accepte, mais avec une condition, si elle, de son côté, ne prend rien qui appartient au palais. Or là aussi, est-ce un piège voulu ou non, le roi va se jouer d'elle en demandant pour le banquet des plats épicés et salés. Ce qui fait que la reine se réveille en pleine nuit, totalement assoiffée, et va prendre de l'eau du palais. Le roi qui l'attendait lui montre alors qu'elle va trahir sa promesse, et que si elle boit, lui peut lui demander de passer la nuit avec elle. Ensuite, la reine de Saba et le roi Salomon s'enferment pendant des jours, tous les deux, s'épousant sans doute dans le plus beau sens de ce terme, et d'après la légende, concevant également un enfant. Pour moi, il ne fait aucun doute que la reine de Saba a été l'épouse du roi Salomon, et ça là dans tous les sens du terme. On peut parler d'épouse mystique parce qu'elle est associée à lui, elle s'est associée à lui pour effectuer des tâches magique, initiatique, importante pour toute l'humanité. Pour moi, c'est là la rencontre de deux grands initiés comme Jésus et Marie-Madeleine plus tard. C'est un amour initiatique qui a donné naissance au livre des Cantiques, qui aurait été écrit, comme vous le savez, par le roi Salomon, et dont les mots, qu'ils soient pris au sens littéral ou symbolique, démontrent toujours un grand amour et une grande sensualité également. Mais quelle tâche magique ces deux grands initiés ont-ils réalisé dans ce temps passé ensemble, toutes portes fermées dans leur chambre nuptiale? Nous pouvons trouver là des indices dans une autre source beaucoup plus tardive qui est la Morte d'Arthur de Malory, soit donc un récit, comme je vous le disais, des chevaliers de la table ronde. On y trouve en effet la légende du bateau construit par le roi Salomon, qui n'est bien entendu pas à prendre sous sa forme littérale, comme souvent, d'un vrai bateau donc, mais plutôt d'un temple mémoriel, d'un temple mémoire qui n'existe que sur un plan précis, le plan intérieur de l'être, le plan du cœur, le plan de l'âme. C'est donc d'un temple intérieur dont parle cette histoire, un temple intérieur de prêtrise habité par des initiés, des hommes et des femmes et des êtres même lumineux, féeriques, les fameuses fées cygnes. On retrouve le symbole du bateau et de la barque dans beaucoup de mythes, notamment la barque d'Isis, la barque d'Avalon qui emmène le roi Arthur à la fin de sa vie, emmenée d'ailleurs par des fées cygnes. Et ce sont tous des véhicules qui transportent à la fois l'être et l'esprit sur les eaux célestes, les eaux spirituelles. Souvent, les déesses sont reliées à ces bateaux, comme Isis ou comme Morgane la Fée d'ailleurs. Ce sont des embarcations, des guides, qui nous permettent de traverser ces eaux célestes pour accéder à l'état de grâce, à l'humain divin, ce nouvel humain avancé, évolué. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec le bateau du roi Salomon, ce bateau-temple qu'il va construire à dessein à cause d'une vision en fait dans laquelle il voit le dernier descendant de sa lignée 2000 ans plus tard et qui, lui, ce descendant, n'a plus accès au mystère initiatique. Et c'est ce qui va se vérifier. Du coup, la création de ce temple lui apparaît comme une façon de lui communiquer ses secrets initiatiques-là pour ne pas qu'il soit perdu. Et ce descendant, en fait, on va s'en rendre compte dans le récit, n'est autre que Galahad, le chevalier qui va découvrir le Graal. Donc, d'après cette légende, c'est par ce bateau qu'il va découvrir le Graal. Donc, par extension, ce temple intérieur, puisqu'on nous le donne à comprendre et on nous l'offre, eh bien, il va être disponible non pas uniquement pour ce descendant-là, pour Galahad, mais pour tous ceux qui cherchent le Graal. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi Salomon a besoin de la reine de Saba pour construire ce temple intérieur. C'est ensemble qu'ils peuvent mettre en forme cet objet mystérieux caché sur un autre plan. C'est un temple d'une magie très complexe, faite à partir, la légende qui nous l'explique, de la lame de l'épée de David, donc pas toute l'épée, juste la lame, d'une ceinture d'épée créée par la reine de Saba, d'un lit sarcophage fait avec un bois spécial, de trois fuseaux reprenant les couleurs de la grande déesse, et de l'alchimie et bien d'autres objets magiques. Voilà donc pour moi la magie, c'est juste mon opinion, c'est ce que je comprends en fait, c'est la magie que leur union a tissée. C'est ensemble deux grands initiés, un petit peu peut-être perdu dans ce monde sans autres personnes qui avaient leur niveau là, qui se rencontrent et qui créent cette magie là parce qu'ils savent que ça dépérit de plus en plus et que dans 2000 ans il n'y aura plus rien. Et je trouve ça merveilleux que la reine de Saba, créatrice du temple d'accès intérieur au Graal, se soit montrée dans la création de cet atelier, pour cet atelier qui fait partie des mystères du labyrinthe et du Graal. Comme nous avons pu le voir en introduction, pour moi, c'est une magnifique confirmation de la justesse de ce parcours grandiose que l'on est en train de vivre, en train de faire. Mais la reine de Saba, comme je vous le disais, n'est pas la seule reine qui s'est montrée pour cet atelier. Sa création et ses enseignements ont été totalement plongés dans la fréquence des codes royaux du féminin sacré. J'ai même été invitée, comme je le disais, à recréer cette magnifique huile d'onction à partir du quatrième chapitre, hein, du joyau, pour vraiment rentrer en résonance avec cette fréquence, vraiment l'incorporer. Et j'ai également voyagé avec la reine Cléopâtre, qui est la dernière des pharaons, qui est déjà un petit peu, en fait, 2000 ans plus tard, déjà un petit peu usurpée par rapport au chemin initiatique. Mais Cléopâtre, elle, est venue également m'enseigner l'enchantement et la noblesse de chaque chose et me dire qu'il n'y a pas que les rubis et les pierres précieuses qui sont des trésors, mais que si on sait le voir, chaque chose, chaque pierre est un enchantement pour l'essence et pour notre âme. C'est trouver en fait le merveilleux, le magique dans le mondain, dans ce qu'on croise tous les jours, dans l'habitude. Elle nous dit aussi que les reines ont toujours porté en elles le cœur du royaume, qu'elles sont la santé de l'âme des royaumes sur terre. Il y a également Perséphone, hein, très présente d'ailleurs pour tous les ateliers autour des blessures de l'âme. Je vous renvoie à l'audio que j'ai fait en dessous si vous voulez en savoir plus. Je vous y encourage hein, si vous voulez y approfondir. Mais voilà, que ce soit Perséphone, Cléopâtre ou la reine de Saba, chacune de ces reines se sont appropriées la matière, mais aussi leur sensualité et leur sexualité. Elles ont toutes été les épouses mystiques nécessaires à cette balance, cet équilibre, à cette part-là dont, en fait, la dualité, la terre, avait besoin. L'époux, le roi, ne peut pas faire s'il n'a pas la reine. Il ne peut pas maintenir un royaume sain. Et il ne peut pas non plus créer de temple intérieur. Il faut le féminin, il faut son pendant pour pouvoir créer. C'est vraiment cet équilibre-là de sortir de la dualité. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a additionné ce féminin et ce masculin, qu'ils se joignent justement, s'épousent et créent cette magie-là ensemble, on n'est plus dans la dualité. Les deux s'associent pour créer cette troisième voie. On dit aussi que ces épouses mystiques ont utilisé peut-être la sexualité sacrée pour créer ce genre de grande magie. On les appelle donc des maîtresses de la magie sexuelle, et c'est pour ça qu'elles vont être mises dans l'ombre d'ailleurs. Ce n'est donc pas sans rappeler l'histoire de Marie-Madeleine, bien entendu, comme si l'histoire finalement ne faisait que se répéter. D'ailleurs, nous nous rappellerons que même si Marie-Madeleine n'est pas à proprement parler reine, la souveraineté est le concept le plus important de son enseignement. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, nous ne sommes pas, à l'heure actuelle, 100% souverains de notre être. Quand on l'est à 100%, on est donc maître ascensionné. Nous sommes sous de multiples influences de notre inconscient personnel ou bien collectif, et l'un de nos buts en fait est de reprendre le contrôle total de soi, de redevenir 100% souverain. Et c'est ça en fait que nous disent les codes des reines, que non seulement nous avons récupéré notre souveraineté énergétique, mais également notre souveraineté dans la matière. Et je dis dans la matière et pas sur la matière, parce que la reine de Saba nous explique clairement, enfin elle m'a expliqué clairement la différence d'intention entre les deux. Vouloir régner sur la matière, c'est chercher le pouvoir, chercher à prendre la place des autres en plus de la sienne, donc de grignoter une place qui n'est pas sa juste place, de s'étendre pour en prendre toujours plus, par une soif de ce toujours plus. Et l'abondance, c'est pas forcément cette soif de toujours plus, d'être ce puits sans fond, mais c'est de savoir rester à sa juste place et respecter l'harmonie de la fleur de vie pour respecter, pour retrouver notre souveraineté dans la matière et alignée avec le cœur. Donc, elles ont clairement établi le fait que les reines justes, les reines véritables, initiées, n'ont jamais rien acquis par malhonnêteté. L'abondance et la richesse, je vous ai dit, hein, la reine de Saba, c'est richissime de chez richissime. Tout ça a été acquis avec l'amour, la vérité, la responsabilité et le pouvoir juste. Je vais vous le remettre en fait en fin de page. Donc elles sont de pure noblesse et cela est faisable également pour nous d'inscrire dans nos vies cette nouvelle façon d'être. Et c'est très intéressant de retrouver ce sujet-là pour la blessure d'abandon, avec cette problématique-là d'acceptation, à la fois du coup de la matière et de l'incarnation comme on l'a vu. Parce que les reines nous disent ici d'embrasser la matière, le luxe, les richesses, mais pas de croire que c'est faire un affront, que c'est en désaccord avec la spiritualité ou l'amour inconditionnel. Elles nous demandent de balayer cette croyance-là impersonnelle dans laquelle nous baignons tous, cette influence que nous a donnée, de croire que tous les riches sont pourris, qu'ils font le mal, qu'ils sont interférés, et que nous ne pouvons devenir riches et dans l'abondance qu'à partir du moment où on vend notre âme. Bien sûr que dans la réalité, il y a de ça. Bien sûr qu'il y a des luttes de pouvoir et du grignotage de place, mais il n'y a pas que ça. Nous sommes des âmes qui craignons la chute des anges, la chute de notre âme, parce que nous avons été témoins de tout cela, nous l'avons vu. Ainsi, cette croyance nous tient loin des plaisirs de la matière et des belles choses parce qu'elle est profondément reliée aujourd'hui à la chute. Mais les reines nous montre que cela n'a pas été tout le jour, toujours le cas. Les pharaons étaient des rois initiés et spirituels, des êtres qui baignaient dans la richesse, mais qui étaient aussi évolués spirituellement. Donc une noblesse d'âme à la base qui se reflétait dans une noblesse de la matière, ce qui n'est peut-être plus d'actualité. Ils savaient en tout cas être à leur juste place, sans en prendre chez les autres. Elles m'ont fait comprendre, les reines, quand j'ai travaillé avec leurs fréquences, que nous tenir loin de la matière, eh bien, c'était une illusion à part entière qui nous tenait loin des plans de manifestation de la Terre elle-même, dans ses plus belles vibrations, de mettre en place, en fait, dans la réalité, la fleur de vie. Donc imaginez un peu ce que des êtres évolués, justes et bienveillants pourraient faire s'ils atteignaient, eux, de hautes fonctions de pouvoir. Les reines nous demandent d'arrêter de croire que la matière va nous faire baisser spirituellement, nous faire chuter, mais au contraire de le remplacer par cette affirmation que la matière et la richesse peuvent être un terrain de jeu particulièrement fertile, non seulement à la réalisation de notre âme aussi, mais à celle de la terre. Que la matière est sacrée, et ça, il faut en faire l'expérience, ce n'est pas des mots que l'on peut répéter, il faut le sentir à l'intérieur de soi, l'incorporer, et que la matière a été désacralisée pour nous en tenir éloigné, alors que c'est notre droit à nous d'en profiter totalement, de profiter à 100% en fait de notre incarnation, de notre juste place. Donc, à nous de voir à quel point la nature est divine et noble, comme nous l'indique la fleur de vie déjà, les reines nous demandent de nous aligner en fait à la noblesse de nos âmes, d'élever nos standards, de comprendre que oui, la reine de Saba est l'archétype de l'abondance, de la vie, du croissant fertile, de la richesse de vie, mais que c'est elle le trésor le plus précieux. Elle nous demande de regarder où est-ce qu'on porte encore la pauvreté dans notre vie. Et elle nous montre que s'abandonner, c'est aussi croire que nous avons moins de valeur en fait qu'une reine, c'est se diminuer. Ainsi, une base solide d'estime de soi, de confiance en soi et d'amour de soi est faite des matériaux les plus nobles et les plus solides, les plus sacrés aussi. C'est une matière divine qui nous compose et c'est ça le joyau de l'incarnation. Je vous embrasse, merci d'avoir écouté et je vous dis à très vite pour la suite.